Nous avons vécu une année liturgique complète qui est, c'est sa conclusion aujourd'hui avec la fête du Christ roi. Nous avons vécu dans l'attente pleine d'espérance de sa naissance, puis nous l'avons accompagné lors de ses premiers jours, nous avons adoré avec les mages et les bergers, nous avons vécu avec lui dans la vie cachée, dans cette vie quotidienne, mais remplie de lui. Ensuite, nous nous sommes réjouis abondamment lors de sa manifestation publique. Nous avons été enchantés d'entendre ces enseignements si profonds, cette sagesse qui vient d'en haut, et si simple et si profonde qu'elle nous fait atteindre l'infini. Nous avons applaudi à ces miracles extraordinaires. Nous avons été touchés par la puissance de sa miséricorde infinie pour tous les pécheurs, pour tous les blessés de cette vie. Nous avons été inquiets lorsqu'il nous a parlé de la crucifixion, de son départ. Nous l'avons accompagné en pleurant sur la pente du Mont des Oliviers. Nous l'avons vu mis en croix et le texte de ce jour en fait mémoire. Nous sommes morts avec lui au monde, à tous ses attachements, au monde déifié. Et nous sommes ressuscités avec lui à une vie nouvelle, comme n'appartenant plus à ce monde-là, à ces nations-là, mais à une nation qui n'est pas de ce monde. Et il nous a tout expliqué pendant 40 jours. Puis il y a eu l'ascension où il nous a laissés, mais nous avons pendant tout l'été fait mémoire à travers les fêtes christologiques, eh bien de sa présence, de son immensité, de son cœur infini. Et puis avec l'automne, cet été, c'est un peu flétri, c'est usé. Nous avons été confrontés, eh bien, au retour du monde, au retour en force des problèmes de la société, de nous-mêmes, de nos familles, de tout ça. Et enfin, nous sommes arrivés à cette conclusion comme à la fin d'une vie. Et le Seigneur nous demande de le choisir à nouveau. Et nous le choisissons aujourd'hui comme notre roi. Le thème de la royauté du Christ est totalement lié à sa passion. Quand on lit les évangiles relatifs à la passion, eh bien, le thème de la royauté en fait intégralement partie. Il est tissé tout au long du récit de la passion du Sauveur. Pilate, c'est le premier qui prend l'initiative et qui ne cesse de répéter tout au long du procès et jusqu'à sa mort, la mort de Jésus s'entend, qu'il est le roi des Juifs. Expression étrange, parce que Pilate évidemment ne croit pas en cette royauté, mais il veut ridiculiser les Juifs d'une part, et puis derrière lui, il y a le diable qui veut ridiculiser la royauté du Christ lui-même. Il y a des outrages, couronnés d'épines, revêtus d'un manteau de pourpre, un roseau à la main, et il se prosterne devant lui, et dans ce texte, il recommence. C'est la royauté de Jésus traitée comme un roi de carnaval, de pacotille, un roi qui, dans ce monde, ne peut rien faire. Et ce sont les païens qui se moquent de lui, les Romains. Pilate fait Pilate va jusqu'à faire renier Dieu aux Juifs, aux grands prêtres, en leur disant « Mais vais-je crucifier votre roi ?» Et ils finissent, les grands prêtres, par craquer pour obtenir la condamnation à mort du Christ. « Nous n'avons d'autre roi que César. » Eh oui, César est le roi de ce monde. César est celui qui prend la main sur Dieu en ce monde, si nous n'y prenons pas garde. Et c'est seulement après leur confession d'antifoi, que Pilate, eh bien, consent à leur livrer Jésus pour qu'il ne soit mis à mort. Pas avant, il leur a fait tout un cheminement, en fait, de quasi-catéchuménal, en quelque sorte, voici votre roi. Et puis, lentement, mais très lentement, il les a fait blasphémer jusqu'à faire renier ce Dieu qui était venu au milieu d'eux. Combien d'hommes, aujourd'hui, agissent d'eux-mêmes? Oh, ils sont dans l'ignorance, évidemment. Heureusement. Sinon, ce serait terrible. Ils seraient impardonnables. Ils seraient comme des diables. Mais cette ignorance n'est pas moins coupable. Cette ignorance, c'est de... Quand le bon larron contemple Jésus, il contemple un innocent, il le voit bien, tout œil peut le voir. Comment se fait-il que ceux qui ont condamné Jésus ne le voyaient pas? Sinon que l'innocence n'avait aucune importance à leurs yeux. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui, au lieu d'écouter leur cœur, parce que toutes les qualités, toutes les vertus sont inscrites dans le cœur de tous les hommes, eh bien ils se détournent de leur cœur, et dès lors, leur cœur se pétrifie. Oui, ils refusent Dieu. Dieu, c'est le principe même du jugement, si vous voulez. Le crucifié se montre et se laisse, traiter par les hommes selon le cœur des hommes. Et la plupart du temps, il nous dit, ben voilà, c'est dans les outrages, c'est dans les railleries, c'est dans les malédictions que le Fils de l'homme, doit régner sur les hommes. Dans la dérision, Jésus est cependant présenté à Pilate comme le roi et comme le juge aussi. Le juge, il ne fait asseoir sur le trône du juge, sur le lieu appelé Gabata, là où Pilate rendait les jugements. C'est le trône symbolique de l'empereur et de son représentant. Oui, Jésus comme roi et juge des vivants et des morts. Et c'est le sens aussi de cette conclusion liturgique. Nous acclamons le Seigneur parce qu'il est miséricordieux, mais aussi parce qu'il tient la vie entre ses mains et qu'il est comme un souverain qui décide d'ouvrir la porte de son royaume ou pas à ceux qui frappent à la porte. Oui, Jésus, même dans la dérision, est présenté, voyez, comme le souverain juge. Maintenant, le texte du jour de Saint Luc lui souligne la miséricorde de Jésus. C'est un roi, oui, mais un roi miséricordieux, pas comme les rois de ce monde. Le salut, est accordé à tout pécheur converti. C'est bien la leçon du bon larron. La seule chose que le larron ait fait dans toute son existence, c'est à l'ultime moment de choisir le Christ. Il n'a eu aucun autre mérite. Il n'a pas fait croître des vertus chrétiennes au long de sa vie. Et pourtant, Jésus, lui ouvre la porte de son paradis. Le monde, au contraire, ce sont ses sarcasmes. Mais là, Saint Luc ne fait pas l'économie de ses sarcasmes. Il nous montre les Romains, les grands prêtres, les foules, tous l'injurie, se moque de lui, le regarde comme une bête curieuse. Parce qu'il prêche l'amour, parce qu'il prêche la vérité. Le premier texte nous mettait en relation avec la royauté davidique. Nous savons, Jésus lui-même s'en réclame, il est le fils, le descendant de David. Mais le salut, la royauté de David, elle est vécue par Jésus d'une façon spirituelle. C'est pourquoi il n'est pas le roi des Juifs, ça c'est le point de vue humain. Il est le roi d'Israël, ça c'est le point de vue spirituel. Dire le roi des Juifs, c'est dire qu'il est le roi d'une nation, d'une ethnie. Le roi d'Israël, il est le roi de tous ceux qui ont la foi, comme Abraham a eu la foi. C'est ça, Israël. Et c'est ainsi qu'il est acclamé par la foule, juste avant sa passion. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le Saint d'Israël, le roi d'Israël, pardon. Donc la royauté politique, d'ailleurs Pilate n'y croyait absolument pas, c'est une réalité spirituelle. Et Pilate nous montre que Satan est vraiment derrière lui, parce que c'est ça que Pilate rejette encore plus. Une royauté politique, eh bien ça peut toujours, par les armes, et Rome l'a prouvé souvent, eh bien se résoudre. Des concurrents naissent toujours pour régner sur des portions de terre de l'Empire. Mais une royauté spirituelle, ça ne peut pas être conquis par les armes. Et ce que veut Satan derrière Pilate, c'est chasser toute spiritualité de ce monde, transformer le monde en un vaste désert où rien ne pousse, où aucun salut ne germe. Jésus, lui, est acclamé comme roi et il affirme par là, eh bien, que les plans du démon ne fonctionneront jamais. Alors, qu'est-ce que proclamer que la royauté de Jésus dans nos vies? Comment le faire? D'abord, nous proclamons que Jésus est notre roi par notre foi. Ensuite, nous le proclamons par notre espérance. Oui, le monde ne pourra pas user notre cœur. Il ne pourra pas user notre intelligence, la dissoudre comme il dissout l'intelligence des païens, jusqu'à les rendre complètement fous. Le Christ, notre roi, eh bien, implique l'exercice de la charité comme vertu première, l'amour. Oh, tout le monde parle de l'amour, mais les exigences de l'amour, ça c'est autre chose. L'amour véritable ne peut se fonder qu'en son auteur, Dieu le Très-Haut. La royauté du Christ, eh bien voyez-vous, c'est le Sacré-Cœur qui nous la dévoile. Le Sacré-Cœur, c'est l'icône de la royauté du Christ. Miséricordieux et exigeant tout à la fois. Le Christ roi aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie donc? Eh bien, en accueillant les vertus théologales, ça signifie de vivre selon l'Esprit Saint. Ça signifie aussi de répudier totalement l'esprit du monde dans toutes les opérations de notre intelligence, dans toutes les opérations de notre cœur, dans tous les désirs de notre cœur, et puis dans toutes nos réalisations qui doivent tendre, eh bien, vers le royaume, nos réalisations même très matérielles. Elles doivent avoir cette fécondité du royaume des cieux et non pas s'arrêter à l'ego, à nous-mêmes, comme le monde le voudrait.